Bonsoir. Je vais demander humblement aux présents et aux absents la permission de prendre la parole dans ces lieux d'histoire et de savoir. Et je les remercie aussi pour l'honneur et le plaisir qu'ils m'accordent à cette invitation. Entrez les mots candomblé dans un moteur de recherche et vous aurez pas moins de 3 millions de réponses possibles, ainsi que des kilomètres de publications dans beaucoup de langues. Ça va du polonais au japonais compris. Des écrits de maîtres, des spécialistes. Ça va de Roger Bastide à Pierre Verger, en passant par Lévi-Strauss, Bernard Maupoil, Metro, un pâté bas, Edson Carneiro, Gilberto Freire, Jorge Amado, Vivaldo Costa Lima, Estela de Ochoa et tant d'autres. Qu'il me pardonne de ne pas tous les citer. C'est que des siècles d'élaboration autour de la diaspora africaine, de la question de l'esclavage, des siècles pour la construction de ce corpus qu'on appelle candomblé, c'est-à-dire la religion des orishas, des inquises et des vaudous, et de la grande diversité qui en découle. Ceci, évidemment, ne peut pas tenir en 50 minutes. Pardonnez-moi donc la modestie de cet exposé. Je me présente rapidement. Je suis née à Bahia, au Brésil. En France, je me suis formée en psychologie clinique et tout naturellement, évidemment, je vais centrer mon propos ce soir sur ce qu'on pourrait appeler les traitements de la souffrance, avec la question essentielle, comment ils ont fait, les Africains, réduire l'esclavage, comment ils ont pu résister, comment ils ont fait pour survivre, qu'ont-ils fait de leur souffrance? Un peu.
A tristeza é senhora, desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora.
O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer. Veja, o dia ainda não raiou, o samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador.
A tristeza.
Donc, je vais aborder cette histoire de comment on a pu survivre, comment on a transformé la souffrance, avec trois petits points. Un petit rappel historique, comment ils sont arrivés, au Brésil, comment ils se sont organisés et qu'en est-il de leur pratique aujourd'hui. Je m'appuierai pour cela sur les travaux d'un maître, le professeur Flávio Pessoa, anthropologue et babalorixá, à qui je dédie ce travail et mémoire. On y va. Bon. L'émotion, quoi. Au XVIe et XVIIe siècle, la majorité des esclaves arrivant au Brésil étaient surtout d'origine bantou, c'est-à-dire d'Afrique méridionale. Vers le milieu du XVIIIe siècle, on voit émerger des profondes transformations dans les scénarios esclavagistes. À ce moment-là, en Afrique, deux villes du royaume Yoruba ont été totalement détruites. L'une d'entre elles était Oyo et l'autre Keto. Le milieu des années 1850, donc, marque l'arrivée massive au Brésil des esclaves d'origine Jeje et Yoruba, c'est-à-dire de l'Afrique occidentale. D'autre part, cette Afrique méridionale qui a fourni les premiers lots d'esclaves, présents essentiellement tout au long de la côte du Brésil, a été modifiée en partie à cause des transformations politiques et économiques en Europe. L'assouplissement des liens entre la métropole et la colonie aurait favorisé à ce qu'une partie du commerce esclavagiste soit réalisée par des Baïanais eux-mêmes. Ceux de l'eau, aussi bien Jeje que Nago, Yoruba, seront donc par conséquent plus fréquents au nord-est du Brésil. Au total, entre le XVIe siècle et 1850, date de l'abolition officielle du trafic, 3,5 millions d'esclaves sont transplantés d'Afrique au Brésil. Ces chiffres représentent 30% du nombre d'esclaves vendus dans toutes les colonies d'Amérique. Ce qui explique qu'aujourd'hui, le Brésil a la deuxième plus grande population noire du monde, derrière le Nigeria. Ainsi, dès 1850, arrivent les premiers esclaves de Langafon. Ils vont occuper une région appelée les quartiers du Pelourinho, c'est-à-dire du pilori, lieu du poteau des supplices et des châtiments. Beaucoup des illustrations sont dues à un Français, Jean-Baptiste Debray, qui a été au Brésil et qui a documenté ça. Donc, je m'appuie là-dessus. Voilà. Donc, ils s'installent dans cette région qui est habitée surtout par des esclaves libérés. Ils ont fondé dans ce petit quartier périphérique une église appelée Église da Barroquinha, dont les saints patrons étaient, comme par hasard, les seigneurs des martyrs. Il est intéressant de remarquer que déjà à partir de 1780, cette église regroupait une congrégation essentiellement noire, composée en majorité d'esclaves d'origine Jeje. Sa population va donc augmenter progressivement en intégrant une grande quantité d'esclaves d'origine Yoruba. Autour de cette même période, une esclave affranchie appelée Dona Dana décide de faire quelque chose d'inusité à cette époque. Elle amène les ancêtres au Brésil et apporte avec elle le culte de Oxóssi. Il s'agissait probablement d'une femme d'origine d'une des villes détruites, peut-être la ville de Keto. À partir des fondations dédiées à Oxóssi, qui est l'ancêtre patron de cette ville, elle commence à rassembler la population d'esclaves autour de la pensée et des pratiques en relation avec cette Afrique laissée derrière eux. Il y a des documents enregistrés chez des notaires qui attestent de l'achat d'un terrain situé dans une région de très peu de valeur. Cette région, o Engenho Velho, traduction, le vieux moulin. Ces noms indiquent déjà une terre fragilisée, abandonnée. Ces terres, au sol épuisé, ont été utilisées depuis longtemps pour les plantations de canne à sucre et elles avaient été abandonnées pour cause de basse productivité. Un autre facteur valorisait ces terres, c'est la rivière qui traversait les vallées lors des crues, inondait les terres et rendait les passages difficiles. ce qui n'était pas mauvais pour les Africains, ça protégeait de la police. Tout cela leur donnait une valeur assez basse et cette grande quantité de terres a pu être acquise. Une partie des membres donc de la confrérie de la Baroquinha, appelée Notre-Dame de la Bonne Mort, église de Baroquinha, deux confréries, une masculine, Seigneur des Martyrs, et une féminine, Notre-Dame de la Bonne Mort. Cette partie féminine s'installe donc no Engenho Velho. Et cela est considéré comme un élément singulier, spécifique de la situation brésilienne. C'est qu'à partir de ce moment-là, elle se constitue en institution, un temple religieux. Parce qu'avant l'institutionnalisation, c'est-à-dire l'achat des terrains, la construction des temples, la fixation des calendriers liturgiques, il existait déjà des anciennes associations appelées calundu. Ils étaient des réunions, des groupes qui ne se constituaient pas en église proprement parlée. Ils n'avaient pas une liturgie établie. Ils étaient temporaires, transitoires, un peu nomades. Ils ont été extrêmement persécutés. Plusieurs de leurs chefs, emprisonnés, amenés en Europe, présentés à l'Inquisition, ne sont jamais revenus. Nous allons y revenir au calendou parce que c'est la base, c'est la continuité de la vision africaine. Mais l'institutionnalisation a donc permis la fixation dans un espace propre, la construction des temples. Ceci a amené une sécurité, un début de dialogue, une nouvelle forme de construire l'exercice de la religion. Donc, ces espaces, il existe plusieurs mots pour les définir, pour les désigner. Ils étaient appelés les maisons, les îlets, les maisons. Les maisons, en fait, ceux qui protègent les corps des intempéries. Ils sont aussi appelés les temples. C'est un espace qui accueille donc les dieux. Ils étaient appelés, ils sont toujours appelés des terreiros, c'est-à-dire les rapports à la terre, les mots à la terre, ou alors des roças. Les roças, ce sont des terrains cultivés, là où on peut produire ou transformer, produire des choses de la nature. Mais nous pourrions aussi les appeler des agences de santé. L'Engenho Velho s'était appelé Ilê Yanassô. Ilê Yanassô, la maison de la mère Nassau. Ce terme Nassau correspond à un titre très important dans la ville d'Oyo, à la cour du Alafin d'Oyo, Xangô. Il désigne la femme qui s'occupe des rituels, des objets sacrés, des fondements du grand Orisha. C'est justement sa venue, la possibilité de placer cela dans un temple religieux qui va constituer quelque chose de nouveau dans les scénarios brésiliens, une particularité brésilienne. Il serait le premier, le plus ancien temple, premier au Brésil, probablement dans les Amériques, à avoir posé l'institutionnalisation de la religiosité. Un autre aspect extrêmement important est qu'il surgit à la suite d'un accord dans cette confrérie religieuse passée entre les femmes. Ce que je vous ai dit, réunies dans les quartiers, elles ont fondé cette confrérie, Notre-Dame de la Bonne Mort. Elle avait un objectif essentiel et principal, c'était justement d'acheter des terres où on puisse fixer les groupes, où on puisse enterrer ses morts. Nous avons vu qu'en 1860, un autre temple d'origine égège, ou Alaketo, s'organisait ainsi que d'autres communautés. La particularité de ces communautés réside justement dans son aspect spatial. On pourrait revenir sur la photo noir et blanc, qui marque ces grands accords entre les villes. Voilà, ça c'est une très ancienne photo. C'est que les Yoruba en Afrique possédaient plusieurs villes. Chacune d'entre elles avait son patron, avait un lien, un ancêtre. Par exemple, la ville de Keto, fondée par Oxós, la ville de Yé, fondée par Ogun, la ville de Oyo, fondée par Xangô, la ville d'Oshobo, fondée par Oshon. Pardonnez-moi mon accent africain. Chacune de ces villes était donc liée à un ancêtre. Et d'une certaine façon, ça va résonner, ça va répercuter dans l'espace sacré. Nous allons avoir des maisons, la maison de Ogun, la maison de Oxós, la maison de Oxum, la maison de Xangô. Les différentes maisons dans les territoires qu'on les appelait les îlets Orisha. Ces maisons n'étaient rien d'autre que la tentative d'amener cette Afrique au Brésil, une tentative de refonder la religion de ressignifier à nouveau tous ces scénarios religieux dans la Terre nouvelle. Et donc c'est à partir d'un pacte, ces pactes, à partir de la prise en compte des matrices d'origine, peut-être aussi de la conscience des dégâts causés par les conflits entre eux en Afrique. C'est ce pacte qui a permis de recréer une nouvelle organisation qui rende compte des aspects fondamentaux pour le nombre et la diversité des peuples Yoruba et Jeje. Parce que les temples religieux étaient exactement cela, les lieux où il était possible de se soigner, de penser ses blessures, possible de penser la liberté, possible de parler les langues d'origine, très important, elles étaient interdites. Possible aussi de raconter les histoires des ancêtres, de ressignifier la nature, de recréer la vie sociale. Car il était important à l'extrême de chercher cette relation d'humanité perdue par l'esclavage, par l'anonymat, par la solitude. Retourner en Afrique, l'avoir comme modèle mythique, c'était pouvoir repenser à cette chose profondément importante et perdue, la liberté. Mais, comme nous avons vu, les maisons Nagô n'étaient pas les premières à exister au Brésil, tournées vers le soin du peuple brésilien. Je vais donc revenir au Kalundu. Les Kalundu, par exemple, en 1646, on trouve des références à Domingos de Barca. C'est un Congolais qui avait une grande clientèle. Il soignait des patients, il donnait des consultations de divination. Il fabriquait des potions pour soigner les personnes qui les fréquentaient. Il n'avait pas une maison à proprement parler. L'office religieux se déroulait dans des lieux très divers, chez l'un ou l'autre des adeptes. Mais déjà, à partir de ce moment-là, on voit l'émergence d'un noyau central qui donnera origine aux religions afro-brésiliennes. Il y a aussi, avec très peu d'informations, l'exemple d'une Angolaise blanche qui avait une maison réputée où elle recevait et soignait une large clientèle. Pas de détails sur ses méthodes. Et puis il y a Luzia Pinta. Alors, Luzia Pinta est originaire de Luanda. Elle a exercé plus de 20 ans dans les Minas Gerais, à Sabará, avec une clientèle très fidèle et très diversifiée. Elle a été dénoncée comme sorcière à la suite de ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler une faute professionnelle. Je pourrais vous raconter après, si elle a le temps, si vous avez envie. Donc elle a été dénoncée comme sorcière. Et elle est envoyée au Portugal devant l'Inquisition. Et là, elle est interrogée par les maîtres. « Qu'est-ce le Kalundu ?» on lui demande. Et elle a eu cette réponse magnifique. Le Kalundu est en même temps une maladie, une vertu et une destinée donnée par Dieu. Une maladie parce qu'elle afflige corps et âme. Une vertu parce que c'est un chemin vers l'acquisition d'une connaissance, donc d'un pouvoir plutôt surnaturel. Et une destinée aussi parce que c'est une responsabilité devant les esprits et devant la lignée. L'exercice de la vocation du Kalunduzeiro était donc une responsabilité rituelle devant l'esprit des ancêtres. En acceptant cette destinée, Luzia Pinta disait honorer et respecter la mémoire de sa tante Maria, qui est restée esclave en Afrique, et de qui elle avait hérité son savoir. Dans un univers culturel dans lequel la parenté constitue l'axe central de la construction des identités sociales, la responsabilité devant la mémoire des ancêtres n'est pas à sous-estimer. Ces dispensaires de soins, donc, se sont peu à peu dotés d'outils. Ils se fortifient, ils se complexifient. Depuis les plus rudimentaires du XVIe siècle jusqu'à ceux plus sophistiqués, plus organisés, comme ceux du quartier de Bahia dont j'ai parlé auparavant. En tout état de cause, c'était nécessaire de rappeler encore une fois que les Kalundu ont marqué la religiosité au temps colonial du Brésil. Ils ont, d'une certaine façon, ouvert les chemins à la institutionnalisation des religions afro-brésiliennes à partir du XIXe siècle. Ils ont existé aussi à Rio de Janeiro et dans d'autres parties du Brésil jusqu'au Rio Grande do Sul. Dans chacun de ces espaces, de ces lieux, il y avait toujours une interrelation avec les communautés environnantes. Il n'y avait plus à proprement parler une répression comme on pensait auparavant, qui tentait d'extirper à n'importe quel prix ces noyaux initiaux de la religiosité. Il y avait même une certaine tolérance et parfois la reconnaissance de ces lieux de soins et de divination du futur comme utiles et comme une forme de contrôle d'exercice de la magie. C'était des formes publiques, institutionnalisées, comme elles l'étaient en Afrique. C'était peut-être justement cette tentative de rendre la chose publique qui parfois déclenchait une répression extrêmement forte de la part des autorités coloniales. Parce que ce n'était plus de simples cultes domestiques, au contraire, il existait un calendrier liturgique avec des fêtes très connues annoncées à l'avance. Le métier même des calendouzeiros était devenu tout en nuances, avec des subdivisions claires et des codes de communication dans la relation aux clients. Le mot même, calundu, suggérerait, supposait une relation de proximité, d'accompagnement. D'après le dicionário de palavras oriundas de línguas que mais contribuíram para a formação da língua portuguesa falada no Brasil, de Newton Ribeiro, ce mot ferait référence à l'esprit protecteur des accouchements. Et donc à des aspects magiques implicites dans la relation, dans ces moments extrêmement délicats, pleins de fragilité, qui sont les moments de passage. Lorsqu'un être vivant arrive dans les haillés, la terre, et lorsqu'il part, qu'il quitte ces lieux. Le métier de calendouzeiro n'était donc pas quelque chose de caché, d'occulté. Bien au contraire, les gens savaient et cherchaient dans ces lieux les soulagements à leurs difficultés, à leur angoisse, à leur souffrance. Les mots même, calundu, suggéraient, supposaient une relation de proximité. Ce qui nous semble important à souligner, encore une fois, c'est que la mission du calendouzeiro est tournée vers la cure. Plusieurs maladies étaient prises en charge, soignées. Plusieurs de ces maux étaient socialement connus dans la communauté, comme la lèpre, la variole ou les maladies de la peau, la tuberculose aussi, ainsi que d'autres maladies de voie respiratoire. Donc, mais les utilisateurs du savoir africain, de ces spécialistes africains, n'étaient pas seulement les esclaves. Une grande partie de la population qui n'avait pas accès à la médecine de l'époque y avait recours, et surtout les femmes. Parce que voilà un aspect extrêmement délicat dans la relation avec la médecine officielle, les questions féminines. Le corps de la femme étant très protégé par cette famille traditionnelle dans la colonie, il ne bénéficiait pas souvent du savoir des médecins, vu que c'était souvent, toujours, des hommes. Le corps de la femme était intouchable. Elle ne sortait que pour aller à la messe avec des vêtements très lourds qui cachaient le corps. Encore au XIXe siècle, c'était comme ça. Et l'homme étant, à cette époque-là, très porté à la promiscuité, il transportait toutes sortes de maladies à la maison. Maladies sexuellement transmises, je m'explique. La femme ne pouvait être touchée ni soignée que par les femmes. Ceci faisait qu'elle cherchait d'autres femmes avec la réputation d'un savoir-faire. C'était donc les esclaves qui s'occupaient d'elle, surtout en ce qui touchait les maladies vénériennes. Toucher les corps des femmes était donc une attribution exclusivement féminine de ces femmes qui pratiquaient la cure. Les femmes calendouzeiras ont donc produit quelque chose de très spécial, qui était une connaissance très fine de la cure des questions de la femme par l'utilisation de la phytothérapie. Il existe des références du Saint-Office à des hommes riches qui ont acheté des esclaves reconnus par leur savoir-faire de guérisseuses. Ils ont établi une espèce de clinique vers le début du XIXe siècle. Le Portugais était très fort pour ça, récupérer les savoirs et faire de l'argent avec. Bien, l'important c'est de reconnaître que c'est par les calendous, dans ses rapports à la santé et à la maladie, à la vie et à la mort, que commence à s'organiser les temples religieux au Brésil. Bon, si la question est centrale et essentielle, c'est bien santé et maladie, on va regarder d'un peu plus près dans la perspective du candomblé, dans ces contextes afro-brésiliennes. Comment ces religions, avec leur savoir et leur connaissance, comment elles sont arrivées au Brésil? Comment les maisons des saints, se sont constituées en véritable agence de santé? Un accent. Le processus d'arrivée des Africains au Brésil, on le sait, vous le savez très bien, on le sait très bien. Ça a été dramatique, très très dramatique. C'était la diaspora africaine dans les processus avilissants de l'esclavage. L'esclave, quand il arrive, il a très peu d'occasion de se penser en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Il doit absolument reconstruire, reconstituer toutes les relations possibles, il doit aller de l'avant. Il n'a pas de retour possible. Et avant toute chose, il doit essayer à tout prix de garder sa force de travail, parce que l'esclave n'a qu'un seul bien. Un unique seul bien, c'est son corps sain. La question essentielle était donc comment rester en bonne santé, ou pour le moins en vie, malgré toutes ces difficultés. Est-ce que vous connaissez les plantations de canne à sucre? Est-ce que vous connaissez les pouvoirs coupants de ces feuilles? Le travail dans les champs était exténuant, sous tout le temps. La chaleur du jour, la poussière, la soif, la pluie, la boue, les insectes, les vipères. Et la nuit, le froid, la solitude, les fièvres. S'il tombait malade, il était jetable. Parce que c'était beaucoup plus facile pour les maîtres d'acheter un autre esclave que de prendre soin de la santé d'un d'entre eux. La santé de l'esclave pour les seigneurs n'était rien. Il n'était pas considéré comme humain, il était seulement une bête de somme, un animal, comme l'Indien du reste. Certains maîtres, néanmoins, s'aperçurent vite, quand même, que quand ils abusaient de l'énergie africaine qui était à leur service, les esclaves avaient un rendement moindre que quand ils étaient bien conservés. Ils décidèrent de leur accorder quelques droits, d'avoir un jour de repos, oh non, pas par semaine, hein. De créer des corporations, de posséder et de cultiver un lopin de terre, de recevoir la nourriture de qualité suffisante, d'acheter leur libération. Pour les maintenir en bonne santé, bien sûr, dans le but d'assurer leur efficacité au travail. On n'a pas le temps de détailler tout ça, mais on voit que c'est très bien pensé tout ça. Les lopins de terre, cultiver, avoir son petit argent, pouvoir vendre. On n'a pas le temps de détailler, je vous laisse associer. Tout ça dans l'objectif de les maintenir en forme, hein, pour qu'ils puissent continuer à assurer le travail. C'est bien peu de choses, on le sait. L'esclave sait évidemment qu'il ne compte que sur lui-même. Il devra chercher, il devra découvrir, développer toutes les ressources possibles. Il y va de sa peau. Et sa ressource la plus importante, c'était sa conception du monde, la connaissance de la nature. Parce que, comme tout est lié à la nature, elle est le grand modèle pour penser la santé. Les deux grands groupes ethniques amenés au Brésil étaient différents, mais deux concepts prédominaient et se rejoignaient dans la grande relation à la santé. Le premier concept, c'est le noyau, c'est l'essence, c'est la notion de vie. En Occident, cette notion est pensée comme un binôme, vie, mort. On est vivant, on est mort. Dernier soupir, on passe de l'un à l'autre. La vision africaine, par contre, est celle d'un gradient extrêmement fin, très progressif, qui va de la vie à la mort. Même la perception du corps est différente. Nous avons les pieds en relation avec les ancêtres, la tête en rapport avec l'individualité, avec l'identité propre. Les éléments qui l'organisent sont regroupés et définis par ces mots merveilleux des hachets. À Achat veut dire vie sous toutes ses formes. C'est le premier concept fondamental de la vision du monde. Il était défini par Maupoil en 1934, Bernard Maupoil, comme la force invisible, la force magico-sacrée de toute divinité, de tout être animé, de toute chose. Magico-sacré de toute divinité, de tout être animé, de toute chose. Par Pierre Véger, elle était définie comme la force vitale, l'énergie, la grande force de toute chose. Et par là, il y a l'Orisha Estelle comme le pouvoir de réalisation, de transformation. Voilà les mots. Plusieurs exceptions portent déjà dans ce sein, dans leur sein, ces mots, Haché. Haché peut dire ainsi soit-il, ou Inch'Allah, ou que Dieu te protège. Préserver sa santé, son haché, demande donc des agents compétents, des agents spécialistes de la santé. Par exemple, le plus connu, les Oni Jegun. Oni veut dire seigneur. Gun veut dire mouvement. Et voici donc le deuxième concept, après celui d'achève-vie, qui est celui de mouvement. Un mythe d'origine de la création dit que c'est le mouvement qui amène les formes de vie. Olorun, le Dieu suprême, se reproduit lui-même à partir d'un grand mouvement. Ensuite, il crée toutes les vies jusqu'à ses formes les plus évoluées, qui sont les orishas. Oni Jegun est donc le seigneur du mouvement. Gun, mouvement, mais aussi agitation. Et comme tel, il se doit d'être un grand connaisseur de la forêt. Parce que Oni Jegun amenait la possibilité de se soigner. Par la connaissance de chaque plante, il pouvait conserver l'énergie, le haché. Il veillait à la nature et à la relier à la vie humaine. Le nom, la connaissance des propriétés des plantes, était vitale. Elle est allée d'Afrique vers le Brésil dans la mémoire des captifs. Dans un livre sur les plantes rituelles au candomblé, Ewe Orisha, de l'usage liturgique et thérapeutique des végétaux dans les maisons de candomblé, écrit par Flavio Pessoa et Édouard Napoléon, il a été répertorié pas moins de 430 noms de plantes en Yoruba. Chaque nom informe déjà des propriétés dans quel cas on doit s'en servir, comme s'il avait le mode d'emploi quoi, dans les noms. Un exemple, Pérégon. Pérégon, c'est une plante très connue au Brésil. Elle est vendue encore aujourd'hui dans nos marchés. Elle est vendue en France comme plante d'intérieur, plante verte. Pérégon, donc, c'est partout où on trouve au Brésil, dans les jardins, partout. Bon, Gun, on le sait déjà, veut dire mouvement, agitation. Pere signifie enlever. Pere Gun. Évidemment qu'elle est utilisée dans des cas de fièvre, elle peut être utilisée en bain ou en beuvrage. Bon, ce concept de haché, qui va de la vie dans sa plénitude, de plus en plus de vie vers les moins jusqu'à la mort, suppose quelque chose de très intéressant et d'essentiel. C'est que quand vous prononcez le nom des plantes, quand vous invoquez la santé, vous êtes déjà en processus de cure. La cure, dans cette optique, serait donc le résultat, tenez-vous, d'une interaction où la parole est fondamentale. Ceci est bien clair dans les religions judaïques, par exemple, quand quelqu'un dit « lève-toi et marche ». Ceci n'est pas simplement une injonction de se mettre debout. C'est un impératif d'en quelque sorte activer toute une série de nuances, de mouvements, aussi bien internes qu'externes, qui pourraient amener un changement. Quand notre spécialiste des plantes, Oni Jegun, se plaçait dans les coins des rues des villes du Brésil, au XIXe siècle, il faisait commerce de ces petites plantes. Il connaissait le nom de chacune d'entre elles. Il vendait une large population, parce que, non, pas seulement esclave, mais surtout esclave, parce qu'il prenait soin de sa santé. Oni Jegun, un autre nom, vous voyez, il s'appelle Babalossagne. Babas, le père, Ossogne, c'est le maître des feuilles, c'est le dieu des forêts. Alors, quand l'esclave demandait la plante pour son sommeil, ses maladies, ses blessures, il ne pouvait pas, il savait qu'il ne pouvait pas utiliser le pédégon tel quel. Il y en avait partout, mais il savait qu'il ne pouvait pas l'utiliser tel quel. Parce que, étant en quelque sorte porteur de concepts alternatifs, complémentaires ou en opposition, ils doivent être placés ensemble. Les plantes doivent être utilisées par paire, comme un effet de correction secondaire, j'en sais rien. Elles sont utilisées par paire. Pour le troisième concept qui est essentiel, qui est la notion d'équilibre. Parce que la maladie n'est rien d'autre qu'un déséquilibre, qu'un manque d'équilibre. Et ce sont les professionnels de santé venus d'Afrique. Ils apportent avec eux le soulagement au malheur grâce à leur savoir. Une autre alternative possible pour garder son hachet, c'était les confréries. Les confréries de la religion catholique, on a déjà nommé au début. Parce que tout esclave qui ne faisait pas partie d'une confrérie, il n'avait pas accès aux soins. Et s'il mourait sans appartenir à une de ses confréries, il était tout simplement jeté dans une rivière, dans la mer. Les journaux d'époque sont truffés de notes sur les corps échoués aux plages ou déposés n'importe où, n'importe comment, livrés aux charognards. Parce que pour les seigneurs, il était plus simple de jeter les corps que de les enterrer. Et c'est donc à partir de ces points juste vitaux, avoir accès à la santé pleine et les cas échéants à une hémorragie, qui ont été fondés les terreiros, les maisons, les îlets, les agences de santé, dans la recherche de réponses à ces questions dramatiques. Donc le temple. En 1780, il y a le pacte social en Salvador. Les ethnies se regroupent. Sous les regards, on a vu compétents, compatissants et maternants des femmes qui l'ont créé, les femmes de la confrérie de la Bonne Mort. Aujourd'hui, je n'ai pas tout vu comme statistique, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a quelques, là oui, c'était répertorié, 5000 temples seulement dans la région, on va dire, urbaine de Rio. 5000 temples à Rio. Si on pense une moyenne de 200 personnes par temple, ça nous fait 1 million de personnes qui trouvent des réponses à leur malheur, des conseils, des relations de joie et d'amitié, des relations de plaisir. La recherche de la santé, conçue comme un degré d'équilibre de la vie. À Bahia, je n'ai pas trouvé des statistiques, j'ai trouvé juste un tout petit peu, juste pour deux ou trois maisons du Recôncavo, qui parlent déjà de 500. S'il y a des églises catholiques à Salvador, vous connaissez, ils disent qu'il y a 365 églises à Salvador, c'est-à-dire une pour chaque jour, catholique. Je pense qu'en termes de temples, nous sommes très, très, très loin en avant. Dans ces agences donc, de santé, les temples, on va soigner l'être comme un tout. Les 30 du Orisha, la tendresse de la maisonnée, les activités dans l'entretien de la maison, la création de la beauté, les commerces, les relations avec les milieux. Appuyer sur l'exécution des tâches du quotidien, la transmission des mythes fondateurs s'est fait petit à petit. On fournit ainsi aux adeptes des outils, des instruments d'orientation, des boussoles en quelque sorte, qui indiqueraient les nords dans les chemins à être parcourus. Pour ceux qui connaissent la chanson que Gilberto Gil a fait quand il partait expulsé par la dictature, qui s'appelle « Aquele abraço », il y a un refrain où il dit « Meu caminho pelo mundo, eu mesmo traço, a Bahia já me deu régua e compasso ». Tout le monde a compris, bien sûr. Ça veut dire « Mes chemins de par le monde, moi je les trace. Bahia m'a donné règle et compas ». Toute religion possède donc ses dogmes, ses vérités propres, et les codificateurs les utilisent en s'appuyant sur les seuls critères de la foi. Dans les cas spécifiques de la religion des Orishas, des Inkises et des Vaudouns, les dogmes sont révélés, mais ils ne sont en aucun cas légitimés par un codificateur. C'est important, ça. Ils sont transmis par les aînés, aux plus jeunes, qui doivent seulement les accepter. L'opinion personnelle du Fils des Saints n'est pas prise en compte dans ce qui touche une modification des dogmes. Elle doit être vue et entendue comme un facteur important pour les éclairer, pour les nuancer, pour les élaborer davantage. Il est impossible de parler de tous les dogmes, mythes, histoires, légendes qui orientent les responsables de la transmission du savoir sur les Orishas, Inkises et Vaudous. Prenons juste un exemple, si vous voulez, un petit exemple. Celui de l'interdiction du miel comme aliment pour les fils de Oshosi et de ses descendants. Si Muriel Bloch est là, qu'elle me pardonne, je vais raconter une histoire. C'est une grande griotte, Muriel Bloch. Avec ta permission, ma sœur. Le mythe raconte donc. Un jour, Oshos décide d'aller à la chasse. Il va voir Orumila et lui demande de faire les jeux de divination. Orumila dit qu'avant de partir, Oshos devra faire des offrandes pour ne pas se perdre dans la forêt. Oshos rétorque qu'il connaît très bien la forêt, que jamais elle ne s'y égarerait. La confiance des jeunes. Il ne fait pas des offrandes, il part à la chasse. Arrivé à la forêt, il repère des traces et il les suit. À un moment donné, il pose son arc et flèche par terre pour mieux le suivre. Mais quand il se retourne pour les chercher, il ne les trouve plus. Fatigué, affamé, sans armes pour se procurer de la nourriture. Il est bel et bien perdu dans la forêt. Égaré, paumé, il tourne en rond, il marche sans but. Propre de notre jeunesse parfois. Soudain, Oshos voit un jacquier. Au sol, recouvert de feuilles. Épuisé, fatigué, il s'allonge. Les abeilles dans l'arbre produisant le miel, ils font tomber les gouttes dans sa bouche. Il est resté 4 jours sous l'arbre et le seul aliment qu'il a reçu fut le miel. Je ne garantis pas les chiffres, hein. C'est peut-être à moi, je n'en sais rien. En tout cas, Oshos s'est rétabli et il a su comment rentrer à la maison. Il retourne voir Orumila. Il voulait maintenant faire les offrandes qu'il avait refusé de faire auparavant. Mais, ce n'est guère plus le moment des offrandes. Et Orumila dit, à partir de ce jour, Oshos et tous ses descendants ne mangeront plus du miel, sauf en cas d'extrême nécessité. Il y en aurait des choses à dire. Mais en voilà une fonction du mythe. En expliquant, il fait baisser les résistances. Il aide à la compréhension des règles qui seront ainsi mieux respectées. Dans ces lieux, terreiro, cases, îlets, agences de santé, on forme aussi. Et par les rituels, on essaye de restaurer l'énergie, de retrouver ces points les plus proches de ce qui serait une plénitude de vie. Parce qu'il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. L'accent porté exclusivement sur ce qui dépend de nous, l'accent porté exclusivement à ce qui est attribué à notre action, qu'est-ce que c'est lourd ça? Dans les rituels, il y a une charge de toute puissance qui est déposée. Les gestes rituels aident à se défaire de cette charge lourde à porter. Si ce point vous intéresse et vous voulez approfondir, je vous renvoie un livre intéressant, je ne connais pas la personne, elle s'appelle Ildefonso, c'est une sociologue chercheure au CNRS, qui a publié un livre qui s'appelle « Il y a des dieux ». Là, récemment, au PUF. Très intéressant. Elle parle de la fonction du rituel, justement comme un lieu où on peut déposer cette toute-puissance. Bon, alors, Comment on va voir comment ces notions de vie s'organisent alors? Il y a besoin des facteurs pour s'organiser, hein? Il y a des éléments nécessaires. Et ces facteurs associés, un essentiel, indispensable, la musique, les sons. Shango, comme toute autre entité, ne peut pas vivre sans tambour, sans musique. La première chose perçue par le tout petit dans le ventre de sa mère, c'est le cœur de sa mère. C'est donc par la musique qu'on va faire parler les ancêtres. C'est la musique qui fait vivre cette culture. C'est une forme spéciale de rentrer en relation avec le monde, de les faire connaître et de transmettre. C'est pour ça qu'il y a tellement de diversité musicale dans la diaspora africaine. Samba, chorinho, machiche, jongo, coco, baião, merengue, cumbia, congo, milonga, jazz, rumba, blues, tant d'autres. Même le rock and roll, il paraît qu'Elvis habitait près d'une communauté noire. C'est que la vie est impossible sans musique. C'est la musique qui invoque, c'est la musique qui accueille, qui ouvre les portes, qui crée les mouvements. Je vais reprendre Onigegou. Il va à la forêt. Il chante pour les plantes. Il chante. En se faisant, il demande la permission de les cueillir. Il les amène au terreiro. Et il les place d'une manière très respectueuse. Les plantes sont en quelque sorte honorées. Kosi Ewe, Kosi Orisha, c'est une expression en Yoruba des personnes qui honorent les orishas. Où est la musique?
Kosi Ewe.
Ce qui est dit après, si on vous laisse la chanson, mais je pense que ça risque d'être un peu... Ce qui est dit, c'est que sans feuilles, il n'y a rien. Sans feuilles, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de rêve. Non, ça commence autrement. Sans feuilles, il n'y a pas de rêve. Sans feuilles, il n'y a pas de fête. Sans feuilles, il n'y a pas de vie. Sans feuilles, il n'y a rien. Voilà. Et à chaque fois qu'il faut cueillir des plantes pour soigner les autres, la chanson est dite. C'est une façon d'honorer les plantes. Mais évidemment, pour qu'elle concentre ses énergies, pour qu'elle se transforme en beuvrage ou en bain, elle doit passer par un long processus pour lui extraire les hachets. La musique a bien cette fonction-là. Quand il chante, les spécialistes des feuilles le font pour prendre la vie de la plante, pour la faire passer aux humains, pour préserver la vie des humains. La musique est fondamentale dans la recherche de la santé. Il a été répertorié quelques 18 rythmes différents dans chacun des différents rituels. C'est par la musique que l'on crée, que l'on conserve et que l'on restaure la santé d'une grande partie de la population brésilienne. Je crois que le monde commence à comprendre. Un vieux musicien de Bahia dit... La musique et la danse seront la physiothérapie du monde. Donc la danse. Les orishas, l'entité, en prenant possession d'un adepte, ce qu'on a connu sous le nom de la transe, que vous connaissez, il s'exprime au travers des chorégraphies dont les figures, gestes et rythmes, il a aussi plus de 18, lui sont propres à chacun des orishas. Vêtements et objets rituels aide à composer un tableau qui démontre un autre concept essentiel du candomblé, un concept de respect aux orishas, Inquis et Vodun, qui est celui de Odara, la beauté, c'est un concept essentiel. La beauté. L'idée est claire. L'idée est claire. Vas-y. Est-ce que nous recevons un hôte chez nous, un hôte de marque, dans une maison sale? Pourquoi alors un orisha viendrait dans un corps malade ou mal soigné? Sera donc comme un des critères d'évaluation du degré de santé. Les orishas honorent ces corps. Bon. Un autre facteur très important dans cette conception du monde, la nourriture. Extrêmement important. Aucune personne va enterrer sans manger quelque chose après. La nourriture est source de santé, est source de hachet. Elle est source de liens. De liens. Chaque orisha est, dans les mythes, responsable et associé à certaines plantes, à certains éléments. Haricots, manioc, maïs, igname, huile de palme, viandes diverses, de la mer, de la terre ou du ciel, de deux pattes ou de quatre pattes. Tout est honoré, transformé, reconstruit pour faire la nourriture. Et c'est de là, de ces éléments et de leur transformation, qui vient le hachet, l'énergie, la vie. Il faut donc les partager, les incorporer. Guillemets, l'homme construit règles et systèmes alimentaires dans sa vie quotidienne. C'est une nécessité d'ordre biologique qui ne spécifie pas ce qui sera absorbé. Ces choix sont de l'ordre du contexte social. La culinaire, dit Lévi-Strauss, c'est les moyens par lesquels la nature est transformée en culture. Dans le calendrier liturgique du Candomblé, il existe une grande fête. Elle s'appelle Olubajé. Olubajé. Djé veut dire manger, manger, manger. C'est la fête du banquet rituel de la santé collective de la communauté. C'est là où on chante pour Obaloyé, Omolu. Il a déjà d'autres noms, ce monsieur. On chante pour lui Obaloyé, Oba, le roi, Aïe, la terre. Le roi de la terre, Obaloyé. C'est le grand seigneur de la terre, de la vie et de la mort. Il vient parmi les humains. Il y a un mythe très intéressant qui parle de comment ce rituel est apparu. On a le temps pour raconter ce petit mythe. Ce serait bien parce qu'il rend compte d'une des formes les plus expressives de dénégation, d'oubli, de refus de participation, qui est une des maladies les plus graves qui existent dans n'importe quelle communauté. Quand on ne reconnaît pas ses valeurs culturelles, quand on ne se reconnaît pas sa beauté, quand on ne reconnaît pas son appartenance, on commence déjà à soustraire une partie de sa vie. C'est parfois le risque d'une partie de la population noire au Brésil quand elle ne trouve pas de modèle pour penser sa beauté, sa force, sa culture et la grande contribution qu'elle a portée à la construction du Brésil. Alors, j'ai envie de vous raconter le mythe, rapide, d'origine de cette fête. Ça vaut la peine. Hein? Encore une fois, merci et pardon à Muriel. Un jour, Xangô, le roi, Xangô, il aime le luxe, Xangô est vaniteux, Xangô, c'est l'homme de la justice, c'est le roi. Il décide de faire une grande fête. Il invite tous les orichas à cette grande fête. Ils viennent, chacun apportant sa nourriture, son plat. Parce que quand on va à une fête, on apporte ce qu'on aime le plus. Donc, chacun arrive avec son mets préféré. Il y avait de l'abondance et beaucoup, beaucoup de joie. Les orichas sont contents, ils discutent, ils dansent. Soudain, au milieu de la fête, ils se rendent compte qu'Obaloyé n'est pas parmi eux. Ils demandent les uns aux autres, « Où est Obaloyé ?» Personne ne l'a vu. Obaloyé, c'est un boulot, c'est le même. Personne ne l'a vu. Alors, ils demandent à Xangô, « Où est Obaloyé ?» Et Xangô répond, un peu gêné, un peu irrité, « Je ne sais pas. » Les orichas se rendent compte alors que Obaloyé n'avait pas été invité. Et ceci est une grande offense. Cet oubli signifiait plein de choses, toutes très graves. Personne ne peut se permettre d'oublier les seigneurs de la vie et de la mort. Obaloyé, lui, n'oublie jamais rien, ni les règles, ni les impolitesses. Et sa colère peut être terrible, peut apporter de grands malheurs. La maladie, par exemple. Que faire, comment faire, comment on va faire? Alors, les orichas, chacun, prend les plats de son mets favori et un cortège. Ils marchent vers le palace d'Obaloyé. En arrivant, ils lui disent, « Nous sommes venus faire la fête. » Il dit, « Oui, je sais. » « Nous avons apporté beaucoup de nourriture. » Il dit, « Oui, je sais. » « Nous venons commémorer ensemble. » Il dit, « Oui, vous venez commémorer mon oubli. » Ils disent, « Non, 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 mais si. Vous m'avez oublié, mais je ne vous ai pas oublié, ni vous, ni mon peuple. Ni vous, ni mon peuple. » Il invite alors toute la population à venir sur la place du village. Et là, il prend, dans une des feuilles sacrées des Ossaïens, il prend un petit peu de chaque nourriture. Il compose des portions avec un peu de chaque et il la distribue à chacun pour que chaque être humain reçoive l'énergie des orichas. Alors, on va présenter les orichas. Qu'ils reçoivent un peu de la espièglerie. Ah oui, la feuille d'Ossagne, donc sur la feuille sacrée d'Ossagne, il compose la nourriture pour chacun. Pour que chacun ait espièglerie, virilité, la capacité désirante d'Échou. Échou, c'est la libido à l'état pur. C'est le mouvement à l'état pur, la force, le feu. On dit c'est le diable. C'est juste le désir, la capacité désirante. C'est bon. Qu'ils reçoivent aussi un petit peu les instruments, la force et le courage de transformer les choses à partir du désir, qui est la spécialité de Ogun et du Oya. Qu'ils puissent recevoir aussi la versatilité, la créativité de Oxumaré et de Logun-Edé, qui puissent recevoir la douceur, les pouvoirs de séduction, la fertilité, la richesse, la beauté, la générosité des Iabas. J'ai le nom Nana, Oshun, Yemanja, Oba, et ensemble, bien sûr. Qu'ils puissent recevoir aussi un peu, oui, voilà, Nana, Oshun, voilà, et qu'ils puissent recevoir un peu de la capacité pourvoyeuse d'Oshos. Oshos, c'est le nourricier, c'est lui qui veille à que le village, que la maison est toujours, soit toujours, ait toujours de quoi manger, de quoi, le pourvoyeur, le nourrisseur. Donc, que chacun reçoive un peu cette capacité d'être pourvoyeur et nourrisseur. Qu'il reçoive aussi la capacité de justice de Shango. Et qu'il reçoive enfin la sérénité, la sagesse, la tendresse et la paix de Oshala. Voilà, c'est ce bel exemple que le mythe nous donne. Que la vie n'est pas dans l'individu, elle est partie d'un contexte beaucoup plus large que sont nos amis, notre parentèle, nos voisins, nos semblables. Que partager la vie est essentiel. Et c'est dans cette fête où il est partagé plus de 21 plats différents de chaque orisha et on mange en dansant. C'est dans cette fête réjouie chaque année que l'on renouvelle le grand pacte. Le grand pacte, celui de ne pas oublier le danger de se perdre à cause des conflits. Celui de se souvenir de la vie et de la mort. Celui de se rappeler que la nourriture est sacrée parce qu'elle est lien, elle est le hachet. Ce pacte sera le garant de que chaque année, les personnes se retrouvent et renouvellent les contrats avec le Seigneur de la vie et de la mort. Les contrats, donc, du lien et du partage. Bon. Alors, pour résumer, et c'est bientôt fini, pas de panique, ce serait quoi, alors, le candomblé? Alors, en réélaborant des métaphores religieuses, il donne un objectif à la vie, le candomblé. Il donne la dignité pour continuer dans les choix de lutter, dans l'exil. Il donne le courage pour survivre, de choisir la survie, de choisir la survie sans soumettre ses valeurs, de choisir la survie physique, morale et culturelle. Les choix de l'initiation, donc les choix du candomblé, ce qu'il propose est quelque chose qui est différent dans ces gradients, qui serait de ce qu'on appelle là-bas la maladie de la nostalgie, ou banzo. Banzo, c'est une maladie terrible. C'est la maladie de la nostalgie. Il tue les gens. Si aujourd'hui, on pourrait appeler quoi, la dépression? Je ne sais pas. C'est plus que ça. C'est la maladie du refus, vraiment, de vivre. Les choix de l'initiation, donc, de comprendre les candomblés, il est aussi différent du choix de ceux qui luttent, qui sont de l'autre côté, dans la colère, dans la guerre, et qui luttent sans trêve jusqu'à la mort. Ce sont les exemples des Quilombo, des marrons, des nègres marrons, ceux qui ont choisi la lutte, et qui soient honorés tous, aussi bien ceux du Banzo que ceux de la guerre sans trêve jusqu'à la mort. C'est les choix des martyrs. Ceux qui meurent de nostalgie ou de lutte, parle d'une aspiration au retour, ne serait-ce que celui de l'âme à la terre des ancêtres. Les choix de la transmission par l'initiation auraient permis au Brésil la formation d'un nouveau système de croyances, une pensée, des formes particulières de relations interpersonnelles fondées sur l'initiation, des règles, des valeurs spécifiques aux communautés vouées au candomblé. Il a permis la création d'un cadre, d'une enveloppe matrice pour assurer la continuité du système à l'intérieur ainsi que de ses échanges avec le milieu. Du candomblé sortent quelques expressions majeures de la culture brésilienne, ce que l'on pourrait définir comme des exemples du grand pouvoir transformateur de la douleur en santé, beauté et paix. Nous avons les luttes danses, maculele, capoeira, tout le monde connaît. Nous avons la gastronomie, l'acarajé, la dame que vous offre là, la feijoada, connue. Tout ça sort des plats rituels, tout ça sort de l'Afrique. Il y a aussi évidemment les fêtes. Bahia aujourd'hui est connue comme la terre des fêtes. Alors, il y a les fêtes sacrées, lavage de Bonfim. Il semble qu'aujourd'hui on fait le lavage aussi de la Madeleine en France. Il y a la fête d'Iemanjá, là où on donne des cadeaux à la mère. À Rio, c'est une magnifique fête qui est faite le 31 décembre, premier de l'an. À Salvador, c'est un autre jour qu'Iemanjá est fêté. Mais en tout cas, retourner à la mère nourricière des cadeaux pour qu'elle continue des offrandes, pour qu'elle continue à nous. Donc ce sont des fêtes sacrées. Et puis il y a les fêtes profanes. Le carnaval. Le carnaval à Bahia, avec ses blocs qui dérivent directement des rituels du candomblé, qu'on appelle les afochés. Vous voyez à gauche avec les vêtements et tout. Carnaval de Rio. Wow. Grand spectacle, merveilleux de beauté. Voilà, des choses qui sortent du candomblé. Peut-être que juste pour faire un petit peu intellectuel, je pourrais dire, avant de vous donner la parole, pour des commentaires, on va inviter un grand monsieur dans ma bouche qui s'appelle Edgar Morin. Peut-être qu'on pourrait le citer dans un de ses concepts à se demander s'il n'a pas pêché ça au Brésil. Les concepts de reliance. Vous savez comment il définit reliance? Il dit, c'est le partage des solitudes acceptées et l'échange des différences respectées. Je suis sûre qu'il a connu le candomblé. Alors je vous remercie et je vous donne la parole.
Oui, c'était pour savoir, est-ce qu'on pourrait avoir l'histoire de la faute professionnelle, s'il vous plaît? Bonjour.
Oui.
Ce serait pour savoir si on pouvait avoir
l'histoire. Je vous entends mal.
Ce serait pour savoir si on pourrait avoir l'histoire de la faute professionnelle de tout à l'heure.
Les quoi?
Vous avez parlé d'une...
Ah, la faute professionnelle de Luzia Pinta. Ah, la curiosité. Oui. Ah, Luzia Pinta, oui, c'était une faute professionnelle. Aujourd'hui, on aurait appelé ça comme ça. Luzia Pinta, elle était très réputée, 20 ans, vous comprenez, elle a exercé dans une des villes... Là, c'était au cycle de l'or, hein. C'était âpre là-bas, c'était vie ou mort. Et Luzia Pinta, donc, recevait, et un jour... Il y a un seigneur, maître, colon, beaucoup d'argent, beaucoup d'esclaves, qui va la voir pour qu'elle fasse les jeux de divination pour savoir qui lui avait volé les 10 pièces d'or qu'il avait à la maison. On lui a volé 10 pièces d'or. Alors, Luzia Pinta, connaisseuse d'avenir et tout, elle voit tout, il dit, bon, d'accord, je fais les jeux, je vais vous dire. D'abord, ce n'était pas 10 pièces d'or. Ce n'était pas 10 pièces d'or, c'était 7. Ensuite, vous avez 3 esclaves qui vous mettez dans votre lit tout le temps. Vous ne prenez pas soin d'elles, vous ne donnez rien en échange. Eh bien, elles se sont payées. Évidemment, tout le village a su, tout le monde a su. Parce qu'évidemment que ça se faisait, mais il ne fallait pas le dire. Hein, parce que le pays aujourd'hui est peuplé de mulâtres. Donc ça faisait quand même hein, des échanges entre maîtres et esclaves. Mais il ne fallait pas le dire publiquement. Et encore moins, se faire voler. Il n'a pas pardonné ça, le Seigneur. Et c'est lui qui a dénoncé comme sorcière. Donc elle était appelée au Portugal, elle est allée, elle a passé devant l'Inquisition, et n'est plus jamais revenue au Brésil. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. On pense qu'elle a été neutralisée.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, j'aurais deux questions.
Fort, je suis sourde.
J'ai deux questions. Le candomblé, on en parle uniquement au Brésil. Enfin, ça influence toujours la culture brésilienne ou aussi la culture des Antilles où il y a eu aussi beaucoup d'esclavage. Mmh. Et une autre question, je voudrais savoir si donc tout ce qu'on a pu tirer du candomblé, comment vous mettez ça en pratique dans votre activité professionnelle qui consiste à notamment à aider des enfants, c'est ça si,
Je ne sais pas comment m'apprête. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui concernent à peu près ça? Peut-être qu'on pourrait regrouper les questions, les commentaires, et après je pourrais... Si? Non?
Ah, si, c'est bon. En fait, j'aurais aimé savoir, enfin, j'aurais aimé justement vous nous parler un peu de vous, de ce que vous faites, en fait.
C'est ça?
Ici, là.
Là, ouais.
J'aurais aimé savoir, en fait, parler un peu de, enfin, peut-être pour étoffer un peu la question de madame là-bas,
oui.
Que vous parliez un peu de votre activité, de ce que vous faites, en fait, comment vous êtes venue au candomblé et de votre histoire.
Oui, d'accord. D'autres? Non?
Toi?
C'est bon? Oui.
Bonsoir, j'ai une question à vous poser. J'ai eu la chance d'assister à une cérémonie de candomblé l'année dernière à Bahia.
Oui.
Et j'ai été surprise parce que j'ai vu qu'il y en avait il y a différentes formes de candomblé. Et j'ai assisté à une cérémonie avec des rites chrétiens.
Oui.
Alors j'aimerais que vous développiez ça, si possible. Oui. Quelles sont les différentes formes de candomblé
Voilà, ça va un peu dans...
Merci.
Ça va un peu dans les sens. Oui.
Bonsoir. Alors, en écho à ce qui vient d'être dit, je vois la très belle phrase de Pierre Verger et je ne peux pas manquer de me souvenir que Pierre Verger, c'était le père du secret.
Oui.
Or, le camp d'emblée, je me pose la question de la compatibilité de la transmission générationnelle avec cette notion très importante du secret.
Du secret. Ah ben voilà, oui. Oui.
Moi j'avais une question et ça n'a plus rien à voir avec les autres questions. Donc, je ne sais pas si on pose toutes les questions, après on répondait à tout.
J'ai des problèmes d'oreille. Toute thérapeute que je suis, il faudra peut-être parler un peu plus fort ou prononcer un peu mieux, excusez-moi.
Oui. Non, moi j'avais une question concernant le savoir par rapport aux plantes.
Oui.
Comment... alors que si c'était des Noirs africains qui ont une connaissance des plantes donc africaines, comment s'est fait le passage justement aux plantes brésiliennes par rapport à la santé?
Merci. J'y vais, oui, encore. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes les questions bien. Ça fait d'autres... Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Il existe plusieurs formes de candomblé et dont certaines compatibles avec la religion chrétienne. J'aurais voulu avoir des informations supplémentaires sur lâcher, savoir si c'était plus l'esprit comme nous on l'entend au sens de quelque chose de spirituel et complètement coupé du corps, ou justement si le mouvement et le corps s'est impliqué. Enfin, comment c'est compris par les pratiquants du candomblé?
Bon, bah, il y en aurait à dire, hein, beaucoup, beaucoup. Alors, comment vous dire? On va commencer par le commencement, c'est-à-dire comment on peut distinguer, comment on peut séparer. La diaspora africaine, elle est allée des États-Unis, Antilles, Brésil. On oublie souvent aussi Madagascar, Réunion, etc. Tout ça, ce sont des lieux d'esclavage, ont été des lieux d'esclavage. Bon. Certains disent que la différence dans le développement de cette culture, les différences observées, feraient un peu référence aux visions du monde des colonisateurs. C'est-à-dire qu'il y a qui disent ceux qui ont vécu sous des colonisateurs, on va dire, anglo-saxons, donc protestants, serait une colonisation, une façon de rentrer en relation avec les peuples africains, différente des chrétiens catholiques. Je n'en sais rien, je ne suis pas une spécialiste. Je pense qu'il va y avoir les prochains séminaires ici, la prochaine conférence, c'est quelqu'un qui est une spécialiste, elle, de l'histoire. Donc moi, je ne suis pas spécialiste. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est vrai que la santeria à Cuba n'est pas très différente de ce qu'on trouve au Brésil. On retrouve le même dieu avec le même nom. On retrouve d'une certaine façon le même rituel. Peut-être moins fastueux, moins dramatisé qu'au Brésil. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le candomblé tel qu'il était développé au Brésil demandait essentiellement l'espace, la terre. C'est fondamental qu'il y ait la nature autour. Quand il se développe dans des villes, lieux fermés, urbains, peu d'espace, forcément il prend des formes différentes. Ça déjà par rapport à l'espace. Par rapport à Cuba, par exemple, ce que je vous ai montré dans la photo noir et blanc, là, où c'est une représentation d'Afrique avec des lieux, des villes différentes, avec chaque hommage à son ancêtre. À Cuba, par exemple, existent des petites armoires dans lesquelles il y a les représentations des dieux. Des dieux, donc du panthéon africain, un peu comme par hasard, un peu comme certains oratorios, comment on appelle ça en français, vous savez, au Moyen-Âge, hein? Oui, voilà, c'est ça, des triptyques, là on voit dans les musées qui représentent les dieux chrétiens. Donc c'est une question d'espace, comment ramener ça à une représentation? Donc les pratiques qui en découlent sont aussi différentes, un peu différentes. Mais il y a toujours des choses qui sont dénominateurs communs basiques, les règles, qui sont celles de la hiérarchie, du respect des ancêtres et des anciens, la transmission orale, justement à cause du secret, c'est-à-dire que c'est très lié au secret. Maintenant, il y a beaucoup de publications, il y a des gens qui se sont fait accepter, qui donc peuvent décrire les rituels, depuis Roger Bastide qui a pu se faire accepter, voire même, à un moment donné, il dit quand même qu'il n'a pas tout vu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du secret, qui restent secrets, et qui doivent rester secrets, dans le sens où c'est quelque chose qui appartient à la communauté. Ce n'est pas des choses extraordinaires, ce n'est pas nécessairement des choses qu'on peut fantasmer, mais ce sont des choses du secret. Il faut être initié pour savoir, et c'est très progressif. Parce qu'un humain n'est pas humain au moment simplement où il naît. Hein. Il n'est pas humain du tout au moment où il naît. C'est biologique. Je vais peut-être vous rappeler quelque chose de douloureux, mais il y avait une pratique dans le bord du Niger, dans certaines peuplades, quand un enfant arrivait, allait ailler la terre, avec des malformations très graves, avec une impossibilité d'aller loin, les concepts disaient que, en fait, c'était une erreur de destination. C'est un bébé, c'est un petit d'hippopotame qui s'est égaré et qui est venu parmi les humains. Et donc, tout gentiment, avec tout le respect qu'il faut, on les dépose chez lui, à la rivière. Évidemment, nous les Européens, nous voyons ça de façon barbare, c'est difficile ça. Je veux dire, c'était un concept. Parce que l'humain, quand il arrive, il devient humain petit à petit. Il faut minimum, à chaque moment de passage, c'est pour ça que j'insistais, à chaque moment de passage, naissance, sévrage, éloignement de la mère, etc., puberté, tout ce qu'on veut, mariage, tous ces moments qui sont d'une extrême fragilité qui construit l'individu, ils sont entourés d'un savoir, de connaissances, de transmissions, des gestes qui font qu'il devient un peu plus humain à chaque fois. Et être humain, ce n'est pas avoir un corps, c'est avoir une culture. L'humain, il n'est pas universel. Il y a pas l'humain universel, lambda. Il y a des Français, des Brésiliens, des gens de Guinée, etc. Des Chinois. Enfin, chacun est construit avec ce qu'il reçoit de sa culture, dans la façon dont le cœur de la mère battait quand il était dans les ventres. Comment les bras de la mère les portaient. Je suis en train de répondre un peu à comment je travaille, qu'est-ce que c'est mon travail. Comment j'intègre ces notions de culture. Comment les chansons que la mère les chante. Comment ça se fait le sévrage. Quelle est la place de la famille autour. Et c'est ça qui crée un humain spécifique, propre à une communauté. Et l'apprentissage aux interrelations. Alors, dans mon travail, qui je suis, qui je suis? Je suis donc Inès Sampaio, je suis née au Brésil, j'ai vécu pendant 22 ans au Brésil, donc j'ai connu du dedans un peu les choses. J'aime bien raconter que dans la rue où je suis née, par exemple, à propos de cette contiguïté des modes d'honorer l'invisible, on va appeler ça comme ça, hein, parce que l'invisible, il existe, il y a des choses qui nous échappent. Et donc, la façon d'honorer l'invisible, il y en a plusieurs, beaucoup, beaucoup, qui se constituent en église ou parfois en secte. Au Brésil, où j'habitais, la rue où j'habitais, où j'ai grandi de mes 4 ans jusqu'à sortir à 21 ans, j'habitais au numéro 3. Au numéro 2, en face, des rues petites, hein, c'est des rues d'anciennes villes, en face, il y avait une dame aveugle qui s'appelait Dalila, qui était voyante. Elle était dans la ligne kardeciste et elle voyait les choses. Et elle attirait les gens de sa fenêtre. On passait dans la rue, elle disait des choses. Et toi, là, du numéro 12, tu penses qu'on ne sait pas que ton mari, patati patata. Enfin, de Luzia Pinto, qui disait les choses encore aujourd'hui de façon trop ouverte. Mais du coup, il n'y a qu'une façon de la faire taire, c'est d'aller la voir. Hein? Donc on va la voir, elle fait sa consultation, elle dit des choses, et elle travaille avec l'aide des esprits dans les sens spirites, Allan Kardec. Hein? Vous allez au cimetière du Père Lachaise, vous verrez des Brésiliens comme ça. Hein? Ça veut dire beaucoup, je dois, beaucoup, beaucoup de Brésiliens. Parce que Allan Kardec est très, très apprécié là-bas, il y a une espèce de... On suit ses enseignements là-bas. Donc, elle s'est revendiquée de lui. Mais ça n'empêchait pas d'aller au fait, au numéro 12, c'est-à-dire, les deux, il est là, mais les 12, il est à peu près là, quoi. C'est une maison petite. Il y avait un îlet, une maison de saints, avec une mère ancienne qui transmettait ses enseignements, qui avait des enfants, qui faisait les fêtes, qui appelait. Et donc, j'y étais petite, pieds nus, et j'y allais à ces fêtes, j'y allais voir toute la préparation, je participais. Ces maisons sont ouvertes, on peut rentrer. C'était, je ne sais pas comment elles sont maintenant, mais c'était toujours. Je crois qu'on est toujours très bien reçus, je crois que madame a vu, celle assistée. On peut y aller, on est bien reçus comme client, on est respecté. Maintenant, c'est une première visite. Après, il y a toute une série d'étapes pour arriver à vraiment rentrer. Et ce n'est pas par hasard que les gens du candomblé appellent ça obligation. C'est-à-dire que ce n'est pas une visite culturelle, artistique, juste exotique. Si on veut connaître un peu plus, on a des obligations envers la maison, envers les peuples qui habitent, et on doit les respecter. Mais à chaque fois, on a toujours les choix. C'est pour ça que, au début, au Brésil, pouvoir respecter, conserver cette foi n'était pas simple pour les Africains. Vraiment pas simple. Parce que, et donc, voilà, ce qu'on appelle là-bas le syncrétisme avec les catholicismes, les confréries, sous un saint, nom d'un saint, avec l'église, avec un saint patron, tout ça. Parce que quand on immigre, très souvent on change de nom. Les dieux immigrants, ils étaient obligés de changer de nom. Donc ils changeaient de nom. Oxós, à Bahia, il est souvent associé à Saint-Georges, parce que c'est celui qui a la lance, c'est lui qui chasse. C'est à peu près, c'est pas tout à fait Oxós. Mais on va dire qu'on va faire une fête pour Saint-Georges, en honorant Oxós. Iemanjá, Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim, vous connaissez les rubans, hein? Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim, qui est Oxalá. C'est lui à l'église, vous avez vu, c'est son église, et vous avez tous les gens du rituel habillés en tant que tels qui viennent l'honorer, laver, nettoyer sa maison, mettre des parfums, nettoyer. Donc, c'est une coexistence, ce n'est pas nécessairement un mélange. C'est ce que j'ai dit au sujet des dogmes. On ne va pas déformer, on va l'adapter, on va le mettre de coexistence. Les grandes mères des saints, si vous allez sur Internet, vous pouvez voir au centenaire d'une des maisons assez réputée à Bahia, ça commence toujours avec une messe. Toujours. Les nouveaux initiés, quand ils finissent l'initiation, et qui sont présentés en public, il y a une grande fête qui s'appelle les jours du nom, donc qu'ils sont présentés, ils se doivent d'y aller à l'église du Oxalá, Senhor do Bonfim. Ils y vont les vendredis suivant leur initiation. Ils vont avec leurs habits, ils vont avec leur nouveau nom, et ils rentrent dans cette église, et ils viennent honorer les dieux, qui n'est pas le dieu de l'autre, c'est le sien aussi, seulement il a, comme les esclaves aussi, ils ont été obligés de voir des noms différents. On dit souvent, et je crois que c'est une des reproches que je fais au livre d'Alphonse, parce qu'elle parle de polythéisme. Je ne sais pas si c'est un polythéisme. Je crois qu'en fait, c'est un monothéisme parce qu'il y a un Dieu qui est unique et qui crée le tout. Donc ça, il ne faut pas oublier. Et il est reconnu dans n'importe quelle religion. Alors il change de nom, forcément. Mais comme par hasard, il est décrit à peu près de même façon. Tohu-bohu, le chaos, et puis vient la lumière qui vient l'arranger, un grand mouvement qui range. Les choses ne sont pas tellement loin. Donc, oui, ça coexiste. Les religions chrétiennes. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a un grand problème avec les religions, les nouvelles églises, les évangélistes, là. Là, il y a un problème, parce qu'il y a des rapports de pouvoir, il y a parfois le manque de ce respect et l'oubli du pacte premier. Le pacte premier, c'est « je te respecte d'où tu viens et tu auras ton lieu à côté du mien. Tu viens du Oyo, tu as ta maison d'Oyo. Tu viens de Keto, ta maison de Keto, elle est là. » Et on peut faire les fêtes, honorer les entités, qui sont en fait quoi. Je pourrais parler des heures, hein. Il faut peut-être. Je suis bavarde, ceux qui me connaissent le savent. Je suis bavarde. Voilà, alors, qui je suis, une bavarde, psychologue clinicienne formée à Paris. J'ai eu une chance inouïe de connaître un monsieur qui s'appelle Georges Devereux, Georges Devereux. Était un immigré lui aussi, il a créé l'ethnopsychiatrie et il a formé des gens, dont M. Toby Nathan, de qui je suis élève aussi, avec qui j'ai appris beaucoup de choses. Donc c'est une branche de la psychanalyse, de la psychothérapie, qui prend en compte essentiellement la culture. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un en face de moi, ce n'est pas un inconscient sans nom. Évidemment que la psychanalyse aussi. Mais ce n'est pas un inconscient juste sans nom. C'est la culture qui l'a formé. Et c'est là-dessus qu'on va travailler ensemble. Sur ce qu'il est, à partir d'où il vient, au niveau transgénérationnel. Est-ce que ça répond un peu? Ça va? Sinon, rendez-vous l'année prochaine. À une grande fête. Alors, maintenant, c'est pas tout à fait fini, parce que c'est ça les candomblé aussi. On a l'impression que ça finit, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on a à dire là? Deux choses. C'est que je vais vous montrer ce qui donne le candomblé. Comment il peut être intégré dans la vie. Je vous invite à voir ces petites vidéos là. C'est un monsieur qui chante pour Oba Loyer.
Atoto Baba, Atoto. Azansu. Atoto Molu. Babalode Aroleminazodide. Olorum Modute, Olorum Dide. Kalofé. Calofé.
Ce monsieur s'appelle Carlinhos Brown. C'est un garçon de la rue. Je vous invite à aller voir Internet, savoir qui c'est ce garçon. C'est un garçon de la rue, d'une communauté très pauvre, mais qui avait une histoire qui était racontée par les anciens, justement, de quelqu'un qui arrive d'Afrique et qui dit en achetant les terres, on va créer la communauté. Et tout ça s'est transmis. Il faut aller voir parce qu'il y a un film très joli qui s'appelle El Miracle du Candiao. Candiao, c'est son quartier. Qui est au pied des grandes tours des bourgeois, très riches, tout ça. Et comment ces garçons, qui est un phénomène quand même en matière de rythme, c'est un compositeur, c'est lui, juste pour vous dire qui c'est lui qui a été nommé à l'Oscar de la meilleure musique de dessin animé pour le film Rio. Bon, c'est les Muppets américains qui a eu le prix, mais lui, il a été nommé. Et c'est vraiment, il a d'une versatilité incroyable, il est voilà, Haché, c'est ça. C'est ça, mouvement, chant et danse. Et donc, il y a ce film qui peut vous montrer ce qu'il a fait de sa vie jusqu'à maintenant, et qui est très intéressant parce que, voilà quelqu'un qui est particulier, qui sort du lot, il aurait pu, États-Unis, tout ce qu'on veut, beaucoup d'argent. Il s'est marié avec la fille d'un des grands du Brésil, qui s'appelle Chico Buarque de Holanda. Il aurait pu être installé à Rio, à São Paulo, à gagner de l'argent. Tout l'argent qu'il gagne, il l'a remis dans sa communauté. Il a créé une école de musique qui s'appelle Paracatum. Vous ne connaissez pas Carlinhos Brown? Personne n'a jamais entendu parler? Si, quelques-uns. Alors, oui. Alors, allez voir qui il est. Regardez ce petit film qui s'appelle Le Miracle du Candiao, qui a été fait par un Espagnol. Et en profitant de la visite d'un Cubain, justement, qui venait à Bahia pour voir quelles sont les racines en commun. C'est très joli comme film, et ça montre un petit peu ce qu'on peut faire juste avec ses mains et avec son cœur, et avec le respect de là d'où on vient. Oui,